Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Door, la curiosité de cette semaine. Alors je vais vous raconter déjà le contexte autour de cette curiosité. Marilyn fait partie des communautés lyonnaises autour du content marketing. Elle a monté un rendez-vous de tous les mois de cette communauté qui se réunit pour parler justement rédaction de contenu, storytelling, enfin tout plein de choses super intéressantes autour du texte et des lettres. Et Marilyn est aussi indépendante, elle est freelance, tout comme moi, et pour l'un de ses papiers, elle avait besoin de pousser un peu la réflexion autour de l'état actuel du freelancing. Chose à laquelle je me suis mêlé et nous avons profité donc d'à peu près 50 minutes dans un hôtel pour discuter de tout ça de manière complètement informelle, pas très guidée, quelques questions, pas mal de réponses et beaucoup de chemins explorés pendant cette conversation. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous partager ça. Donc, on a à peu près 50 minutes de discussion qui tournent autour du freelancing, des nouvelles manières de collaborer, des nouvelles manières de structurer une entreprise, une activité, des interactions qu'il peut y avoir entre les freelances, mais aussi entre les freelances et les entreprises. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais pour toutes les personnes qui sont un peu sensibles au sujet du futur du travail, des nouvelles manières de travailler, de collaborer, d'échanger. Eh bien, je pense que vous allez pouvoir avoir pas mal de petites billes à aller explorer grâce à cette curiosité autour du freelancing. Je vous laisse directement découvrir tout ça et puis vous m'en direz des nouvelles. Bon dimanche à tous et puis à très bientôt.
Ok, donc tu me disais par rapport au groupe des designers lyonnais.
Donc ouais, le groupe des designers lyonnais, il y a beaucoup de personnes qui viennent dessus pour recruter. Et ils donnent rien en échange, tu vois. C'est lui, on vient, on veut
récupérer. Il y a une piocher du freelance.
On veut récupérer deux stagiaires. On sait que de toute façon ça va répondre parce qu'il y a tellement de réactivité sur ce groupe que du coup ça répond.
Yes.
Pareil pour les CDI, pareil pour tout. Mais en échange, t'as pas d'interaction. En fait, y a pas de, ça nourrit pas en fait une communauté dans les deux sens. Du coup, par exemple, on est en train de réfléchir avec les autres de l'équipe, là, vu qu'on a monté une équipe, de se dire bon, bah, maintenant, déjà, on va bloquer tous les postes qui sont des postes de recrutement brut. Et on va envoyer un message à ces personnes en disant bah, on a une plateforme qui est faite pour ça, où vous pouvez aller poster un article dessus pour recruter les personnes. Du coup, ça permet de créer un peu une transition sur une plateforme qui est dédiée spécialement à tout ce qui est designer à Lyon.
Okay.
Et où il y aura au moins un vrai référencement de toutes les jobs, les offres de jobs, les recherches de jobs et les choses comme ça.
Sachant qu'à la base, l'ambition de ce groupe, c'était plus de nourrir les échanges
ouais,
la
ouais,
communauté, de partager sa veille, etc. Et pas forcément...
bah, le but, c'est de rester là-dessus, mais ouais. D'éviter que ça devienne justement juste on poste un job et on demande un job. Tu vois.
Okay.
C'est vraiment de garder le groupe Facebook pour animer sur la dimension, on partage des choses, on s'inspire et tout. Mm-hmm. Et si jamais vous voulez vraiment faire que des parties job, et ben dans ce cas-là, on se fait un truc job board à côté où là, okay. Il va y avoir des échanges par rapport à ça. C'est plus dans ce sens-là. Et pareil, justement, tous les autres collectifs qui sont venus sur Lyon, genre Switch ou Soto, passent aussi par ces communautés-là, designer lyonnais, la cuisine du web ou n'importe qui, pour aller aussi trouver des personnes qui vont être intéressées. Et ça accélère de manière assez forte leur possibilité, en fait, tu vois. Genre Switch, par exemple, elles sont arrivées. Moi, elles m'avaient demandé, tiens, est-ce qu'on peut pas faire ça à Sofa? Du coup, je disais, ouais, carrément. Donc, j'ai demandé à Joanne et tout, donc elles ont fait leur petit-déj. Et après, elles ont fait un petit-déj à 107 personnes, quoi, t'imagines?
Ouais.
Alors qu'elles n'avaient jamais été sur Lyon. Et après, tu as toute la force de frappe aussi de la communication un peu à la start-up, avec des bons visuels, des trucs propres, un vrai message au final, parce qu'elles apportent vraiment de la valeur pour certaines personnes. Donc, du coup, c'est cool.
Oui, c'est clair.
Mais le fait de rebondir sur les différentes communautés, en fait, et ben, ça va beaucoup plus vite, quoi. Et les entreprises, au final, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a une boîte de conseil, la dernière fois, qui m'appelle, qui me dit, oui, on a un autre client, on est en train de faire un audit pour nos clients, qui a un espace où ils ont du matériel pour faire de la fabrication d'objets design. Actuellement, ils travaillent avec des entreprises, donc en B2B, et là, ils auraient envie de travailler directement, en fait, avec des créateurs, donc en B2C.
D'accord.
Et sauf qu'il ne sait pas trop comment tourner son truc et compagnie. Quand elle m'appelle moi, elle me dit « Oui, voilà, j'ai vu que du coup, vous étiez dans une communauté de designers. Ça m'intéresserait de savoir les attentes des designers, de ce qu'ils voudraient faire, de ci, de là, machin. » Donc, En gros, elle est en train de me demander de faire son travail d'audit, qui, elle, est rémunérée beaucoup et qui, moi, est rémunérée rien. Et encore pire, si jamais je m'étais amusé à demander aux gens de la communauté, c'était comme si eux me faisaient remonter de l'information et qu'ils gagnaient rien non plus par rapport à ça. Tu vois. Donc, quand on est dans une chaîne qui est on fait quelque chose de bénévole, on gagne 0 euros, tout le monde gagne 0 euros, je trouve ça cool. Mais quand dans la chaîne, il y en a qui, eux, gagnent pas mal d'argent, bah, il faut que tout le monde en gagne un petit peu. Quoi. Donc, du coup, par exemple, la réponse que j'ai faite à cette dame, c'était ce qu'il faudrait faire, ce serait qu'en fait, il y a une équipe de designers de la communauté qui viennent dans le lieu de votre client, qui puissent tester le matériel, qui puissent lui faire remonter du feedback, dire un peu ce qu'ils en pensent, qui pour eux serait intéressant ou pas. Et on pourrait mettre ça, par exemple, en place sur une journée complète. Et par contre, il y aurait une notion de rémunération par rapport à tout ça, quoi.
D'accord.
Et j'ai pas eu de réponse de sa part de plus que ça pour le moment.
Ok.
Donc Vladimir, elle a dû aller trouver d'autres pistes, ou peut-être que potentiellement elle est directement allée taper sur les designers dans la communauté vu que tout est ouvert pour aller poser des questions, tu vois. Ce qui fait que ce qui peut être gênant là-dedans, c'est que toutes ces entreprises, elles font du business en se servant des réseaux qui eux sont construits de manière complètement ouverte et vertueuse.
D'accord. Ok.
Donc la grande question, c'est de se dire comment est-ce que on peut arriver à faire comprendre aux entreprises qu'il y a tout intérêt à ce que limite ils participent et se fondent dans ces
communautés-là,
et que ça va leur apporter bien plus que le fait de venir juste quand il y a du business pour piocher et ensuite faire leur truc de leur côté.
Et tu as déjà repéré des initiatives qui vont en ce sens? Genre là, j'ai vu que Soto, par exemple, ils avaient lancé leur manifeste. Je sais pas si tu l'avais passé.
Si, j'ai vu qu'il avait sorti son bouquin aussi.
Il a sorti son bouquin, mais avant, il avait en gros un manifeste pour les entreprises independent friendly.
D'accord.
Où en gros, il listait un certain nombre de punchlines en mode je m'engage à bosser avec un freelance parce que je respecte. Son choix de vie, je suis professionnel, je respecte les deadlines de paiement, etc. Enfin, en gros, plein de points sur lesquels une entreprise pouvait s'engager pour justement améliorer un petit peu les relations entre freelance et entreprise.
Mais après, ça rejoint le deuxième point que j'avais en tête, qui était que pendant longtemps, en fait, quand tu étais freelance, en effet, les entreprises, elles n'avaient aucun respect pour toi parce que c'était. De toute manière, tu es soit un sous-traitant d'un sous-traitant, soit sinon tu vas intervenir
ça,
de
ouais.
manière très ponctuelle.
Un bouche-trou, voilà, à l'occasion.
Soit si c'est pas toi qui dis oui, dans ce cas-là, il y en a plein d'autres.
Ouais.
Sauf que le truc, c'est que là, maintenant, on est dans une époque qui est quand même complètement différente sur le fait que les entreprises arrivent plus à recruter parce
Exactement.
Qu'elles sont plus attractives. Que du coup les savoir-faire, elles ont besoin d'aller les trouver à l'extérieur. Et même en termes de stratégie ou de connaissances terrain, elles ont moins d'informations que des personnes qui sont elles, directement mêlées au terrain, c'est-à-dire souvent les freelances ou les indépendants.
D'autant plus que tu as des expertises de plus en plus précises chez les freelances,
c'est ça.
Dont les entreprises ont vachement besoin.
Et vu que les freelances travaillent en réseau,
ouais.
il y a une quantité de connaissances qui commence à être brassée qui est très intéressante. Et vu qu'eux, ils ne sont pas connectés là-dessus, parce qu'eux sont des entreprises donc sur un modèle à fermer et à vouloir aspirer la connaissance et la conserver en interne, elles se retrouvent à plus rien avoir de vraiment consistant. Donc, ils sont limite en train de devenir dépendants des freelances et des réseaux de freelance, ce qui fait qu'au final, la logique de pouvoir, entre guillemets, normalement, elle est censée être inversée. C'est juste que la posture et l'état d'esprit du freelance a, elle, pas forcément changé. On continue à se considérer comme étant des intervenants, des prestataires,
des prestataires ouais. pas des partenaires.
Par rapport à des clients. Alors qu'en fait, maintenant, quand une entreprise vient te chercher, c'est qu'elle a besoin de toi. Et que du coup, si tu lui dis non, eh ben, son business ne peut pas avancer. Donc, c'est plus dans le sens, en fait. C'est OK, donc là, vous voulez bosser avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, on va bosser dans telle condition. Si vous avez besoin d'autres ressources, d'autres personnes, il n'y a pas de problème, je les ai parce que j'appartiens à X réseaux qui me permettent d'avoir toutes ces compétences. Et en plus, ces gens, je les connais, donc je travaille bien avec. Donc, les conditions, c'est ça, ça, ça et ça. Et c'est à ce moment-là, c'est l'entreprise qui dit, soit ils restent bloqués dans leur carcan, mais au final, ils s'isolent encore plus. Et tant pis pour eux, j'ai envie de dire.
Soit
ils disent, je suis le nouveau mindset et dans ce cas-là, je bascule.
Mais après, c'est aussi au justement de changer de mindset,
voilà,
comme tu dis.
Ça. Je pense que c'est le moment là sur cette année pour que le freelance évolue sur ce mindset là.
Parce que du coup, j'imagine que tu rencontres beaucoup de freelance.
Oui, j'en rencontre beaucoup.
Tu discutes de ça avec eux. Enfin, tu ressens vraiment qu'ils n'ont pas fait ce switch.
Mais en fait, il y a deux types de freelance. Tu as ceux qui justement sortent d'études. Alors là, forcément, eux, ils ont été formatés un petit peu avec les modèles classiques qui sont bah, au départ, voilà, il faut faire beaucoup de stages. Et puis après, pour faire votre expérience, il faut que vous allez trouver un job en entreprise. Si vous ne trouvez pas de job et que vous lancez dans votre coin, bah, de toute façon, vous êtes juste un petit freelance en train d'expérimenter. Donc faites du job quand vous pouvez en faire. Et puis dès qu'on vous en donne, vous dites oui, vous prenez et vous faites. Ce qui pour certaines personnes peut être très formateur et intéressant aussi, parce qu'il faut passer par toutes les étapes et tout ça, quoi. Et puis après, t'as les freelances qui, eux, vont rejoindre des collectifs type Soto ou même des entreprises qui ont un fonctionnement qui s'approche de Soto. Je pense par exemple à une entreprise qui est à Saint-Etienne qui s'appelle Cosmos, qui eux mettent en avant le fait qu'ils travaillent avec tout un réseau de créateurs autour d'eux. Mm-hmm. Ils sont quasiment tous des freelances.
D'accord.
Et ça t'apporte le fait de dire bon bah voilà, je suis freelance, mais en même temps j'appartiens à quelque chose. Ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet d'échanger et potentiellement plus facilement trouver du boulot. Ou ceux par exemple comme Crème de la Crème à Paris qui regroupe que des indépendants aussi, mais eux surtout recrutent en sortie d'école.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Donc du coup, ça apporte une forme de confort pour les nouveaux freelances, nouveaux indépendants, nouveaux entrepreneurs même. Mais le souci, c'est qu'en fait, il faut réfléchir tout le système du truc, quoi. Tu vois, c'est ok, ils font des trucs cool pour ces freelances-là, sauf qu'après, à quelle hauteur ils les rémunèrent par rapport à la valeur qu'ils apportent dans le système. Crème de la Crème, ça leur fait un très gros poids au final en termes de diversité et d'expertise pour aller travailler avec des grands groupes. Donc eux, ça leur ouvre les portes plus facilement des grands groupes, donc ouvre les portes de contrats qui sont plus intéressants. Après, est-ce que les rétributions redescendent de manière équitable jusqu'au réseau de freelance ? C'est pas certain. En plus de ça, le modèle entreprise, normalement, c'est de se dire bon ben, quand j'embauche quelqu'un, ben, je lui trouve du boulot. Je lui apporte aussi tout un système qui est lié à l'accompagnement de la sécurité sociale, le fait qu'il va avoir un salaire tous les mois fixe ou des choses comme ça. Est-ce que ces collectifs-là peuvent apporter le même niveau de confort ? Pas sûr. Après, ils peuvent aussi s'associer avec d'autres réseaux de freelance, type, c'est quoi, c'est WeMind ? La start-up qui bosse sur...
La couverture sociale, tout ça, non, c'est pas ça.
Ouais, c'est ça, ouais, tout ce
ouais,
que...
Ça,
la couverture sociale, tout. Bon, voilà, du coup, tu peux être en mode... Ben, vous êtes avec, par exemple, le Switch Collective, et en même temps, ben, nous, on vous met en relation avec notre partenaire qui est WeMind pour qu'il vous apporte la couche sociale. Donc, du coup, t'appartiens à deux communautés. OK, pourquoi pas, à la limite, quand t'es salarié, t'as aussi ta mutuelle et tout machin. Donc, ça peut passer, quoi. Bref. Le truc, c'est que si jamais demain tu te retrouves à avoir quasiment que des gens qui quittent des entreprises parce que c'est trop verrouillé, qui partent bosser avec des différents types de collectifs comme ça, bon, au début ça va être cool parce que tu vas pouvoir appartenir un peu à tous les collectifs parce qu'ils restent super ouverts. Mais le truc, c'est que demain, après, les différents collectifs, s'ils se forment sur la valeur des gens qui sont dans leur communauté, vont tout faire pour que les personnes se disent « Bon, bah, en fait, je suis trop bien dans cette communauté-là, du coup, je ne vais pas forcément aller dans une autre communauté. »
D'accord. Ça, c'est un truc que tu as noté ben,
ça commence à se faire un petit peu, ouais. Quand tu appartiens à un certain groupe, ils ne te disent pas, c'est pas du genre, ils te disent bah, « Si jamais tu bosses avec d'autres gens, nous, on te dégage, tu vois. » Mais ça peut commencer à être un peu sensible.
D'autant que tu as des communautés qui sont assez redondantes.
Voilà, c'est ça. On peut commencer à se poser la question, de se dire, bon, ben là, j'appartiens aux deux, les valeurs sont assez proches, j'ai des potes à droite à gauche, ils m'apportent du boulot aussi les uns les autres. Comment je fais, quoi, tu vois. Donc après, peut-être que... Tu vois, c'est un modèle qui reste encore très proche du modèle classique de l'entreprise. Et puis après, moi, ce que je vois comme souci aussi qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait... Ce qui est intéressant, c'est quand tu te lances indépendant, c'est d'arriver à créer ta propre identité, à te trouver tes propres valeurs, savoir comment tu te positionnes, avec qui tu veux bosser, comment tu veux bosser. C'est ça aussi, cette liberté d'être indépendant.
C'est vrai.
Et le fait de rejoindre un collectif, c'est rejoindre des valeurs. Donc au final, c'est s'aligner sur les valeurs d'autres personnes.
Comme tu le ferais en rejoignant une entreprise.
Comme tu le ferais en rejoignant des valeurs d'entreprise. Et du coup, tu perds peut-être un peu ton identité. Surtout si tu fais ça dès le départ, parce que si dès le départ tu rejoins ces valeurs-là et que tu as ce modèle de pensée-là, cette manière de travailler-là, après si tu n'es plus dans ce collectif et que tu le quittes, bah, tu vas porter ces valeurs-là et tu n'auras peut-être pas construit tes propres valeurs à toi, ta propre identité. Et moi, ce que je vois de beau en fait dans le monde du freelance, c'est la possibilité d'avoir autant de diversité que d'individus. Et du coup, ça, pour le coup, si je fais la jointure sur moi quand je bosse avec des entreprises et que je travaille avec des personnes qui sont indépendantes aussi, c'est une richesse qui est super importante. Le fait de pouvoir se dire, bon, pour telle entreprise, pour telle problématique, avec tel type de personnes dans le groupe, je sais que je peux travailler avec Grégory, avec Ben, avec, Amina, avec n'importe qui. Mais je sais que ces personnes-là sont des individus à part entière et que c'est eux, en tant que personnes, par rapport à leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, qui vont parfaitement matcher sur cette équipe-là. Alors que si, du coup, tu vois, c'est un peu plus compliqué de se dire je vais aller voir un collectif qui a certaines valeurs et je vais demander à bosser avec eux.
C'est intéressant. On a eu ce cas de figure, nous. Il y a un mec qui est venu nous voir, qui cherchait différentes individualités des rédacs, quoi. Et c'est chez Duc qu'on était en train de monter un collectif. On lui a proposé, en gros, de bosser avec le collectif. Et clairement, il nous a dit, en fait, non, moi, je recherche des individualités et ça ne m'intéresse pas tout de suite d'être avec un groupe. Sinon, je ferai appel à une boîte où on lui filerait des rédacs comme ça. Mais non, c'est intéressant. Et du coup, tu penses quoi des plateformes de freelance là, qui sont...
Genre Malte
et compagnie, il y en a plein là, j'en vois tout le temps émerger.
Je pense que c'était une première version de quelque chose. C'était une première version de la gestion de communauté. Sur le fait que il n'y avait pas forcément de fonctionnement de communauté, il y a peut-être encore 5 ou 6 ans de vraiment installer, quoi, de se dire on va travailler en écosystème, tous ces trucs-là. Et on était en plein dans cette espèce d'émancipation du numérique à se dire on va tout résoudre par numérique. Donc du coup, si on doit mettre des gens en relation ensemble ou les regrouper, on va faire une plateforme et on va mettre des gens sur la plateforme. Et d'ailleurs, ça se voit avec Malte, quand ils ont basculé de Upwork à Malte, ils ont beaucoup plus mis en avant le fait de se dire on est une communauté de vraies personnes. Ils ont un lieu d'ailleurs sur Paris qui est un espace de
coworking. Okay.
Depuis qu'ils sont Malte, normalement, je crois, ou pas très longtemps par rapport à Upwork, pour dire physiquement, en fait, on est une communauté. On est vraiment des gens, on est vraiment là. Et la plateforme, on va dire, facilite l'accès global par le fait que tu cherches un gars, tu vas dessus, tu vas le trouver. Après, le fait de passer par une plateforme, c'est un côté intéressant peut-être pour des freelances au départ, de se dire c'est eux qui vont me permettre d'avoir accès à un réseau de confiance et ça facilite aussi pour les entreprises de dire ça va être un réseau de confiance, du coup je vais aller dessus. Après, le souci, c'est pareil, c'est que ça aligne l'identité. C'est qu'il y a un freelance qui est sur Malte, ok. Un autre mec qui est designer d'interface comme moi, combien il coûte, tu vois. Donc après, dans la tête des personnes qui viennent chercher des freelances, ça leur aligne aussi la notion de prix, la notion de valeur. Ils disent Puis ça aligne aussi le fonctionnement qui, je pense, n'est pas non plus très très bon du web, qui est je peux faire confiance à une personne seulement si elle a des recommandations. Tu vois. J'analyse la personne que par rapport à ses recommandations, sa fiche et le prix qu'elle met ou avec qui elle a travaillé. Tu vois. Je trouve que c'était peut-être une période qui avait besoin d'exister pour avoir cette notion de communauté qui se construit.
Ça commence à être un peu dépassé, quoi.
Je pense, ouais. Et puis surtout le fait que, mine de rien, avec toute l'émancipation autour du travail collaboratif et des méthodologies type design thinking ou quoi que ce soit, on commence à comprendre que là où les personnes travaillent le mieux, c'est quand même quand elles sont ensemble autour d'une table. Pas forcément tout le temps. Quand tu es sur une production, type un développeur, lui, il peut être à l'autre bout de la planète et bosser sur un projet qui est en France, c'est pas un souci. Mais quand on est sur la première rencontre, de l'initiation de projet, qu'on a besoin d'avoir un rapport qui est assez qui est plutôt de proximité, le fait de pouvoir bosser avec des gens qui sont là à côté de chez toi, que tu peux rencontrer en physique, c'est quand même vachement mieux.
C'est génial, ouais.
Et les entreprises, mine de rien, cherchent ça aussi. Au final, quand tu veux embaucher quelqu'un, c'est un peu ce que tu cherches. Donc le fait d'avoir des communautés qui sont beaucoup plus localisées et qui se connaissent les unes les autres, ça aussi, c'est super important. Ça change pas mal la donne, quoi. Parce que t'es sur un réseau comme Miles, c'est un gros réseau global. Tu vas avoir des designers, des mecs qui sont dans le content, des mecs qui sont dans le marketing, des mecs qui sont dans le commerciaux ou quoi que ce soit. Ça veut pas forcément dire que tous les commerciaux se connaissent, ça veut pas forcément dire que les différentes personnes qui géraient ces communautés se connaissent. C'est juste Malte, en fait, qui regroupe des gens.
C'est ça.
Et donc du coup, c'est un peu dilué. Tu peux pas aller contacter par mail un mec de Malte en disant tiens, je cherche telle personne. Il va te dire mais non, mais passe par un moteur de recherche. Fais ta recherche avec des tags et tu vas tomber sur la personne, tu vois.
Je trouve que ça, enfin, c'est une question que je me pose pas mal par rapport à ces plateformes-là. Je trouve que ça tire aussi un petit peu nos métiers vers le bas. Enfin, moi, je regarde pas mal les. J'ai parlé de prix. Enfin, ouais. Les tarifs que pratiquent les mecs et nanas qui bossent dans le content. Et j'ai l'impression que voilà, une entreprise, quand elle va sur ce type de plateforme, elle cherche aussi avoir la presta la moins chère.
Ouais.
Et au final, ça, on parle pas mal d'ubérisation, tu vois, de nos métiers aussi. Ça, je trouve, je sais pas, ça, il y a un truc qui me gêne en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Dans la ça, démarche.
Ça rejoint complètement ce qu'on disait au début sur le fait qu'avec des plateformes comme ça, c'est une consommation, quoi.
Exactement.
Tu viens,
c'est ça.
Tu sélectionnes et tu consommes une personne qui va faire du taf pour toi.
Exactement.
C'est pas, tu vas essayer de rencontrer un partenaire. Comment dire, avec qui tu as besoin de travailler parce que c'est son expertise et son savoir-être que tu as besoin et qui va devenir partie prenante en fait de ton projet.
C'est pour ça que je trouve que ce type de plateforme, ça a tendance à encourager en fait les entreprises à rester dans ce mindset de se dire ouais, je vais piocher du freelance et voilà, je vais pas chercher un partenaire mais un presta qui va venir faire le bouche-trou, quoi.
Exactement. Je pense que c'est exactement ça le problème de ces plateformes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont détecté, que d'autres l'ont détecté, comme potentiellement Soto, tu vois, à se dire on va ouvrir des hubs dans différentes villes pour avoir des gens qui se connaissent vraiment et qui sont vraiment là ensemble. Comme Switch, à dire on va ouvrir des hubs aussi partout pour faire s'interconnecter les différentes personnes entre elles. Ils l'ont détecté qu'on est sur un autre virage. Mais après, personnellement, je pense que le vrai virage qui serait à prendre, c'est vraiment le virage de profiter du fait d'avoir des technologies qui nous permettent de nous connecter quand on a envie. Profiter du fait qu'on a des technologies qui nous permettent de gérer en fait une grande quantité de personnes et une grande quantité d'informations sur des personnes qu'on peut rencontrer en local.
Mm-hmm.
Par exemple, moi, si avec un côté des designers lyonnais, du coup, tu as un groupe Facebook, tu vas dire que tu as 2300 personnes dessus. Il y a peut-être 1200 membres qui sont actifs. Ces 1200 membres-là, si jamais je peux avoir un outil qui me permet de très facilement pouvoir les retrouver, tu vois. Et bien très rapidement, cet outil-là n'est pas disponible que pour moi, mais est disponible pour tout le monde. Et tu le mets à disposition des autres communautés aussi. Et du coup, une communauté de développeurs va pouvoir trouver quelqu'un chez les designers, mais potentiellement toujours en passant un peu par les hubs, les humains en fait, qui connaissent les autres de leur communauté et les personnes de la communauté. Du coup, tu gardes toujours un rapport humain. Quoi. Et la technologie n'est que du coup un support.
Un support, un outil au final.
Un outil voilà, pour aider le travail de personnes qui gèrent des communautés. Mais tu vois, par exemple, ce qu'on voulait arriver à faire aux Designers Lyonnais, mais c'est pas pour tout de suite, je pense, mais c'est arriver à faire en sorte de demander à tous les designers de potentiellement donner 2 balles par mois, tu vois. Si t'as 1000 personnes qui donnent 2 balles par mois, ça fait 2000 euros par mois que tu peux donner à 2 personnes qui sont sur du mi-temps, 2 designers mi-temps qui s'occupent de gérer la communauté.
Ouais, c'est vrai.
Donc tu crées une forme d'emploi en fait qui est intéressante. Et puis le job est super cool parce qu'au final, c'est connaître les gens de la communauté, arriver à les mixer avec les autres communautés pour créer des pôles projets, des choses comme ça. Arriver à faire en sorte de gérer l'interface entre des demandes d'entreprises ou d'autres communautés ou quoi que ce soit.
Je ne vous connais pas, monsieur.
Potentiellement, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça, quoi.
Ouais,
plutôt
mais
que de rester sur un modèle qui est type entreprise, qui finit par faire perdre la diversité au final. Et les gens deviennent passifs aussi, c'est le truc. Si tu appartiens à une entreprise ou tu appartiens à une communauté, du coup, tu es dans un rôle qui est passif, qui est un petit peu à l'attente, de se dire, bon, bah voilà, cette communauté ou cette entreprise va me donner du travail et ensuite, je vais faire le travail.
T'es moins dans cette dynamique
voilà,
où tu vas...
Quand t'es freelance et indépendant, c'est... Je me mets à l'écoute de ce qu'il peut y avoir, des opportunités. Je vais rencontrer des gens que je trouve intéressants. Je vais interviewer des personnes que je trouve inspirantes ou dont les projets sont inspirants. Parce que peut-être que je vais détecter que là, moi, je vais avoir mes billes à apporter à son projet. Et du coup, tu vois, cette dynamique-là,
ouais, je vois très bien.
Elle crée vraiment une identité. Elle crée vraiment une histoire aussi à la personne. Et après, tu as des trucs à raconter, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, bah là, sur, je sais pas, sur 3 mois, j'ai rencontré 25 personnes de plein de projets. Il m'a fait rebondir de tel projet en tel projet. Et là, maintenant, je me retrouve à bosser sur un projet de responsabilité écologique Belgique, au Luxembourg, alors que j'avais pas du tout prévu ça.
Ah, c'est ça qui est assez génial.
Et ça, c'est cool. Alors que quand tu appartiens à une communauté et que tu es en mode passif, c'est les personnes qui gèrent un peu cette communauté qui vont avoir leurs propres valeurs qui vont être partagées avec toi et leur motivation aussi à elles de faire ça, ça, ça ou ça comme action, tu vois. Et vu que leur motivation est surtout de rassembler des gens, de rassembler des freelances, c'est pas forcément la motivation du freelance qui est peut-être de se rendre compte au bout de deux mois que il va aller bosser en Hongrie sur un projet de refonte d'activité métallurgique, j'en sais rien, c'est n'importe quoi. Donc,
yes, ouais, non, mais c'est super intéressant. Et du coup, toi, donc, là j'ai vu que tu nous avais envoyé un mail où tu essayais de créer quelque chose avec tous les animateurs de communauté, ouais. C'est ça? Tu peux m'en dire un peu plus? Enfin, ça c'est juste entre nous. Hein,
ouais, bien sûr, pas de soucis, ouais. Dans l'idée, c'est que il y a X communautés sur Lyon, de grande diversité déjà, tu vois, avec X individus à l'intérieur. Et dans l'idéal de l'idéal, ça serait d'arriver à permettre à chaque individu de se connecter à n'importe quel individu sur l'écosystème lyonnais. Sauf que ça veut dire qu'il faut peut-être arriver à connecter 15 000 personnes, tu vois. Donc c'est un peu complexe. Avec les designers lyonnais et avec les rencontres que j'ai fait d'autres personnes qui gèrent d'autres communautés, et même toi, du coup, je pense que tu as le même retour, c'est qu'en général, une communauté, qu'elle soit de 100 personnes, 500, 1000, 3000, même 5000, 10 000, tu vas jamais avoir plus que 2, 3, 4 personnes qui sont moteurs, en fait, un petit peu de gérer le truc ou d'animer la chose. Les autres vont être force de proposition des fois, porteurs de feedback, peut-être en soutien sur des moments ponctuels, mais vraiment la locomotive qui va tracter les communautés, la dynamique de la communauté, en général, tu n'as pas plus que 2-3 personnes. Quoi. Donc du coup, c'est plus simple. Tu peux faire en sorte de, toi, rencontrer un maximum de ces connecteurs-là, de les inviter à eux te dire qui c'est qu'ils connaissent, pour faire une espèce de base de données de tous ces connecteurs. Moi, j'appelle ça des connecteurs sur un secteur local comme Lyon. Et ben, si tu arrives à avoir ces 100 personnes, disons, ben, tu peux permettre aux 15 000 personnes de toutes les communautés, en passant par ces points relais-là, par ces hubs, de pouvoir accéder à n'importe qui. Quoi. Donc ça t'ouvre une porte des possibles qui est assez folle. Par exemple, j'en parlais l'autre jour à Ben qui s'occupe de la mine, qui est un tiers-lieu qui a à Villeurbanne. Eux fonctionnent typiquement comme ça. Et dans leur idée, c'est venez à la mine, vous pouvez avoir n'importe quelle idée de projet, quoi que ce soit, n'importe quel besoin, vous nous en parlez, et nous on se démerde pour arriver à vous trouver des gens.
D'accord.
Avec lesquels vous allez pouvoir collaborer. Et donc, tu sors complètement du paradigme de dire, bon ben voilà, je suis designer, je sais pas faire développement, je sais pas faire de la rédaction de contenu, je sais rien du tout à la biologie, ben, je pourrais pas bosser sur tel projet parce qu'en fin de compte, je vais être trop limité. Là, du coup, tu dis, en fait, je peux aller voir un mec qui gère une communauté de développeurs, je peux aller voir un endroit comme la mine qui sont très connectés avec toutes les sciences autour de la biologie et compagnie, leur poser des questions. Eux, ils vont me présenter des personnes et ces personnes, je vais pouvoir leur parler de mon projet. Ils vont pouvoir me rejoindre, on va monter un collectif ponctuel, on va avancer sur tel projet, on va bien s'entendre ou pas bien s'entendre, peu importe, tu vois, mais au moins on va bosser, on va faire le projet et après peut-être qu'on continuera à bosser ensemble ou pas, mais j'ai avancé. Et du coup, de se dire que ben, t'as beau être indépendant, en fait, t'es jamais seul parce qu'en passant par ces relais-là et ces hubs-là, tu peux toujours trouver quelqu'un pour bosser.
Mais c'est clair, mais moi c'est marrant parce que paradoxalement, je me suis jamais sentie aussi entourée que depuis que je suis indépendante, en fait.
Ouais.
Justement parce que, bah, à force de graviter un peu dans ces communautés-là et tout, enfin, c'est...
Et t'as une énergie en plus qui peut arriver à se construire qui... En tant que freelance, on a encore toujours les mêmes peurs que quelqu'un qui est salarié, et même encore plus parce que c'est nous qui devons trouver notre argent pour vivre, quoi. Du coup, il y a cette peur de se dire, est-ce que je vais arriver à trouver assez d'argent ou pas? Est-ce que si jamais je collabore avec telle ou telle personne, ben, ils vont peut-être pas me laisser tomber au bout d'un moment parce qu'ils vont vouloir récupérer le projet que eux, tout ça dans leur coin. Ces espèces d'esprits de conquête et d'expansion et de croissance comme il y a dans les entreprises.
Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a moins ça. Enfin, peut-être que j'ai eu la chance d'être tombé sur les bonnes personnes. Au contraire, moi j'ai plus trouvé de la solidarité et de l'entraide. Parce que on est dans la même merde, tu vois, entre guillemets. Enfin, moi, ça m'est arrivé de rester au tel jusqu'à 2h30 du mat avec un autre freelance qui m'aidait parce qu'il avait une autre compétence, tu vois, il m'aidait sur un projet et ça, je trouve ça juste ouf, quoi.
Voilà, ça c'est trop cool, mais comment dire, c'est parce qu'il y a ce mélange avec cet esprit bénévole en fait, de dire on est un petit peu dans les mêmes situations, du coup on va s'entraider, du coup on va pouvoir se faire des trucs gratos les uns avec les autres et tout ça. Mais dès le moment où un freelance commence à être un peu en galère, de se dire ben là peut-être le mois prochain j'aurai pas assez d'argent. Et pareil, si jamais t'as un freelance qui a une famille, tu vois, qui est un peu plus âgé ou quoi que ce soit, ça devient un peu plus compliqué qu'il soit ouvert sur l'extérieur, vu que du coup il faut qu'il fasse rentrer de l'argent pour lui. Parce qu'il y a pas mal de freelance qui sont seniors et ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à eux, beaucoup plus difficile de les faire s'investir dans des communautés ou quoi que ce soit.
Mais ils n'ont pas les mêmes
problématiques à gérer. Plus de besoins, besoin de sécurité plus élevé. Mais pour autant, si jamais on arrive à faire en sorte vraiment d'interconnecter les différents écosystèmes de savoir-faire sur un secteur local, que même ces personnes-là puissent se dire ben, si jamais j'ai besoin j'ai envie de bosser sur tel projet, je peux contacter telle personne de telle communauté, si jamais j'ai besoin de telle personne, je ne vais pas passer 3 jours à le trouver, ça va me venir dans les 2 heures qui arrivent, ben là tu commences à te dire en fait je suis dans un système qui est prospère. Qui peut être prospère. Parce que dès le moment où je cherche quelque chose, que ce soit un projet ou que ce soit une personne, je la trouve. Et en plus, je peux la rencontrer en direct. Et en plus, je vis une histoire avec et je vis vraiment une expérience. Et là, ça devient super intéressant, quoi. Et même pour les personnes qui sont connecteurs de ces différentes communautés, l'idée de les réunir aussi sur un apéro, c'est déjà qu'ils se rencontrent pour arriver à faciliter ces synergies et ces ponts. Mais c'est aussi qu'ils puissent se dire, là maintenant, en fait, on a la possibilité, nous, de réfléchir aux problématiques qu'on a, nous, en local. Et donc, on n'est plus juste attentiste de demandes ou de besoins d'entreprises qui, des fois, en plus, ne sont pas forcément vraiment des causes de problèmes, mais sont d'autres effets, mais que les entreprises n'ont pas forcément analysé. On va pouvoir, en fait, nous, avec toutes les expertises qu'on a, travailler ensemble à faire émerger des solutions. Et ensuite, quand on a des prototypes de solutions, à ce moment-là, on peut aller voir les entreprises ou les institutions qui sont intéressées, leur dire « on a fait le taf, maintenant il faut qu'on le déploie, et le taf qu'on a fait, ça coûte tant, et le déployer, ça coûte tant. À vous de voir si vous vous greffez avec nous sur le projet ou pas. » Et puis, il y a même possibilité d'intégrer les entreprises ou les institutions encore plus tôt, tu vois. Par exemple, tu te dis « on veut régler le problème des déchets dans le premier arrondissement, on a des gens de la mine qui sont experts dans tout ce qui est lié au recyclage, l'économie responsable, l'économie circulaire, le traitement des déchets. On a des designers qui sont là pour apporter la réflexion. Il y a des facilitateurs aussi pour aider le travail de groupe. Il va y avoir des développeurs pour un esprit plus ingénieur ou quoi que ce soit. On prévoit de les mettre ensemble pendant 2 jours dans un espace. À ce moment-là, on peut directement contacter les entreprises ou les institutions en disant bah, « on vous invite à venir avec nous, réfléchir à des solutions qui vont traiter ces problématiques-là ». Soit ils disent qu'ils viennent et c'est cool, soit ils disent qu'ils viennent pas, on peut quand même faire le travail parce qu'au final, l'expertise, ben, c'est ces personnes-là qui l'ont. C'est pas les personnes qui commandent travail. Donc là, ça devient assez intéressant. En plus de ça, ça permet d'inverser aussi la notion de quelles sont les priorités de notre société, quels sont les problèmes principaux à résoudre. Est-ce que c'est ce que les institutions, les entreprises nous demandent de résoudre? Dans ce cas-là, on va travailler pour eux. Souvent, c'est le cas. Parce que j'espère, je garde le bon espoir qu'ils ont quand même une analyse des problématiques et des priorités qui est là. Ou si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on peut réfléchir, nous, avec toutes les expertises qu'on a, à définir les vraies priorités de notre secteur et à pouvoir régler les problématiques, quoi.
Tu bosses avec tout type d'entreprise ou tu cibles
Non, je pense qu'il peut y avoir tout type d'entreprise. Après, la question, c'est quelles sont les vraies priorités. Tu vois, ouais. C'est quoi? Est-ce qu'une entreprise, ses priorités, c'est réellement de régler des problèmes ou si c'est de régler des problèmes parce que ça rentre dans une de ses parties business et qu'il fait gagner de l'argent, tu vois? C'est un peu compliqué à tout temps. Une institution, c'est pareil. C'est est-ce qu'elle règle réellement des problèmes ou est-ce que les problèmes qu'elle veut régler en priorité, c'est parce que c'est lié à des raisons politiques? Un peu compliqué. Et même quand je discute des fois avec des grands groupes comme ADO, le groupe Leroy Merlin, je leur dis, mais en fait, vous gérez 107 000 collaborateurs, du coup, vous avez potentiellement les mêmes problèmes qu'une petite ville. Et il dit, oui, des fois, on a essayé de créer des fonds en fait, avec les institutions, mais le problème, c'est que ça ne marche jamais. Parce que nous, on réfléchit toujours forcément à faire des choses qui vont être efficaces, parce qu'il faut que ça soit performant et rentable, alors qu'eux réfléchissent pour que ça soit efficace par rapport à un discours d'une dimension politique qui doit être validée sur une vision qui est très court terme d'ailleurs, parce que c'est pour valider des personnes sur peut-être 3, 4, 5 ans, alors qu'une entreprise, elle, elle cherche mine de rien à se construire sur une longueur un peu plus... Donc ils ne peuvent pas bosser ensemble. Et les seules personnes qui bossent pour les entreprises et pour les institutions, c'est souvent ceux qui ont savoir-faire, et donc potentiellement ceux qui peuvent se dire « je vais travailler freelance avec d'autres freelances ». Et eux, ils ont toute la connaissance de trucs, quoi. Donc on n'a peut-être même plus forcément besoin de ces structures, de ces macro-structures d'entreprises et d'institutions, si jamais on arrive à faire en sorte de structurer des écosystèmes de différentes communautés qui restent ouvertes, qui favorisent l'identité et la diversité de chacun, parce que c'est avec toute cette diversité et cette identité, ces multi-identités-là, que du coup on peut avoir toutes les ressources nécessaires pour faire avancer les projets qu'on a.
Et du coup, est-ce que tu penses qu'à terme, donc ces écosystèmes-là d'indépendants et d'individualité, ils pourraient surpasser le modèle de l'entreprise traditionnelle ou,
En tout cas, personnellement, j'essaie de mettre de l'énergie sur cet axe-là. Parce que quand je travaille avec des entreprises, je me rends compte qu'ils essayent de créer des modèles d'écosystèmes interconnectés avec de la diversité dans leurs valeurs et dans leur influence aussi. Une grosse entreprise, un grand groupe, il est influencé par Google, Facebook, Amazon, enfin tous les gros groupes, quoi. Et tous ces gros groupes-là ont une logique de fonctionner un peu en écosystème, même si c'est pas forcément foncièrement vrai dans le fond. Mais dans les valeurs et dans la vision, dans comment est-ce que l'être humain fonctionnerait bien ensemble, c'est écosystémique. Et on peut y passer une énergie de malade à essayer de transformer les entreprises pour qu'ils arrivent à basculer sur ces modèles-là, parce que la culture d'entreprise, la manière dont les gens ont travaillé, l'histoire, l'ancrage et tout.
Ouais,
alors que des personnes qui se disent « on va aller travailler indépendant, on rejoint des communautés », et ben on est sur un nouveau modèle, on est sur une émergence d'un nouveau système, et du coup si dès le départ on arrive à le structurer de manière propre sur une relation écosystémique, alors dans ce cas-là, ça va libérer un potentiel qui est immense. Et ça va pouvoir aider sur le moyen long terme les entreprises en leur disant « à partir de maintenant, vous êtes obligés de faire vos projets dans vos entreprises, dans vos carcans fermés. » Et surtout, si vous voulez être performant, il va falloir que vous les fassiez en externaliser avec des réseaux de personnes qui sont dehors, qui vont apporter de la diversité. Et peut-être même que vous avez le même problème qu'une autre entreprise, et qu'avant, vous ne vouliez pas parler les uns les autres, parce que chacun doit garder un peu ses secrets d'entreprise, mais que le moyen de régler votre problème, ça va être de travailler avec ces réseaux externalisés qui font aussi intervenir d'autres entreprises. Et du coup, on va pouvoir mélanger les entreprises et les institutions, mélanger les réseaux de freelance. Enfin bref, on peut tout mélanger, quoi. Et c'est là où on peut aller vite et régler les vrais problèmes, c'est quand on a le plus de diversité possible, quoi. Donc je pense que ouais, c'est ces nouveaux modèles qui sont émergents, si on arrive à les garder le plus libre possible et le plus communicant possible, et ben ça va permettre de créer des choses sympas, quoi. Et pour faire le raccord juste avec en fait comment la nature fonctionne de manière écosystémique, la nature fonctionne de manière complètement ouverte, et il n'y a pas d'écosystème qui prend tout de son côté et qui absorbe, et d'autres qui du coup se retrouvent à suffoquer.
Tu me donnes un exemple concret?
Les arbres.
Ça
après, ça va partir un peu perché, mais c'est le délire avec les... Récemment, là, je suis allé voir un documentaire sur l'intelligence des arbres. Les scientifiques analysent la manière de communiquer des arbres avec les échanges par rapport aux racines et le fait que les champignons sont des hubs d'interconnexion entre les différentes racines des arbres, et que toute l'information qui transite entre les arbres transite par les champignons, enfin par l'espèce de filament des champignons. Et qu'un arbre, quand il est soumis à une attaque bien spécifique, par exemple s'il y a des pucerons qui sont en train de commencer à lui manger les feuilles, l'arbre est capable de donner cette information très précise à tout le réseau des autres arbres pour leur dire sécréter tel type d'hormone, parce qu'il va falloir se protéger, il y a des risques de pucerons qui mangent les feuilles.
D'accord.
Et du coup, dans les heures qui suivent, tu as tous les arbres du secteur qui ont sécrété cette hormone, et tu as une incapacité pour les pucerons de pouvoir continuer à manger les feuilles, parce que du coup, elles sont devenues toxiques pour les pucerons. Tu vois, et c'est un peu tout le temps comme ça. Il y a les arbres, par exemple, les plus vieux, ceux qui sont genre de plus de 200 ans, sont toujours entourés de jeunes pousses. Et c'est eux, en fait, vu qu'ils accèdent au soleil, qui vont leur donner les nutriments au départ pour qu'ils arrivent à pousser. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, si jamais il y a certains arbres, de petits arbres, qui sont entre guillemets feignants, même si mes termes sont faux parce que ça ne fonctionne pas sur un mimétisme par rapport à l'être humain, mais s'ils sont feignants du genre ils n'ont pas envie de pousser ou ils se mettent à pousser sur le côté ou quoi que ce soit, et ben le grand arbre arrête de les nourrir. Ce qui va forcer le petit arbre à se dire, bah maintenant je vais aller vers le haut parce que j'ai pas le choix si je veux survivre, ou s'il va pas vers le haut, bah, il va crever. Mais ça veut dire qu'en fait, pour la survie de tout l'écosystème, le fait que lui en fasse casse la tête, encore une fois entre guillemets, et ben c'était pas valable pour tous. Et pareil, le fait que dans la nature, il n'y a pas un grand arbre de 200 ans et plein de petits arbres et d'autres arbres moyens. Il y a un écosystème d'arbres.
C'est intéressant le parallèle.
C'est ça. C'est comme... nous, on dit qu'on a des cheveux. Ouais. On ne dit pas qu'on a un cheveu de machin, un cheveu de machin, un cheveu de machin. Mais en fait, dans la nature, c'est pareil, c'est des arbres. Et foncièrement, les humains, c'est pareil. C'est des écosystèmes d'êtres humains. Et si on arrive à raisonner de cette manière, ça devient intéressant parce qu'on ne réfléchit pas à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi pour que moi, je sois prospère dans mon monde et que moi je sois heureux, moi je sois bien. C'est qu'est-ce que je vais faire moi pour favoriser la prospérité de mon écosystème, qui va favoriser la prospérité de l'écosystème plus grand et qui va favoriser globalement une prospérité plus large.
D'accord.
Et en plus, tu trouves du sens là-dedans. Tu dis, mais je me lève pas le matin pour faire en sorte que moi je puisse être dans une situation de bien-être et de bonheur. Je me lève pour participer à un projet beaucoup plus global, de faire en sorte que les autres autour de moi soient beaucoup plus prospères. Et ça, je trouve que c'est cool. Parce que quoi que ce soit au final ce que tu fais, ben, si ça va dans un sens des communs, ben, du coup, tu te nourris et tu nourris en même temps les communs. Quoi. Donc ça devient cool.
Et tu trouves ton fameux why.
Et tu peux trouver ton fameux why, clairement. Ouais. Et puis tu peux trouver aussi ta propre identité. Si justement, tu t'es pas aligné sur l'identité d'autres personnes. Parce que tu vas te lever le matin, tu vas dire, bon, bah là maintenant, ok, qu'est-ce qui me fait chier là autour de moi? Ben, par exemple, tu vas te dire, ça me fait chier que... je prends un cas caricatural, mais ça me fait chier que tous les jours je passe devant Roger qui est SDF et qui est posé devant la boulangerie. Du coup, tu dis ben pourquoi il est encore là, tu vois. Et lui, tu vas peut-être aller lui parler au départ. Donc ça reste très personnel, tu vois. Après, tu vas te rendre compte qu'en fait ce mec-là est connecté à aucun réseau qui s'occupe des sans-abri. Après, tu vas aller rencontrer des réseaux de sans-abri. Tu vas te rendre compte qu'en fait dans ces réseaux-là, ils agissent tous un peu de manière isolée. Donc tu vas dire bah tiens moi. J'ai des compétences de communicant et je peux arriver à faire en sorte d'aider peut-être ces différents écosystèmes déjà à se connaître et puis à travailler ensemble et puis de partager leurs différents problèmes. Du coup, tu vas les mettre en relation. Puis après, tu vas te rendre compte que tu as peut-être besoin de leur donner des outils qui vont leur permettre de mieux collaborer. Du coup, tu vas peut-être aller contacter un développeur qui va se mettre à bosser avec toi et qui va construire un outil pour que ces gens-là collaborent, tu vois. Et toutes tes actions que tu auras fait, au final, dans l'évolution, tu n'auras peut-être pas aidé directement ce mec dans la rue qui est là tous les jours, mais de fil en aiguille, tu te seras retrouvé à avoir une posture à agir avec certaines associations, certaines initiatives qui, eux, vont mieux bosser, qui vont du coup pouvoir favoriser d'autres personnes, qui ensuite vont pouvoir aider à ce que ce mec-là, il soit plus dans la rue, mais qu'il soit dans un appartement du second arrondissement qui est dédié aux gens qui sont dans le besoin, tu vois. Et en fait, ton cheminement, il se fait juste par curiosité et par question en question et de rebond en rebond. Et en même temps que tu fais ça, du coup, tu construis aussi toi où tu as envie d'être. Et puis, en plus de ça, tu te positionnes par rapport à où tu as envie d'apporter aussi. Mais quelle que soit la place où tu es, au final, tu es toujours utile. Parce que c'est la place où tu es en train d'évoluer et où tu finissais par atterrir. Donc, ouais, voilà.
Ok. Je suis en train de perdre ma voix.
Ouais, tu es en train de mourir.
Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je pense qu'on a encore... On a encore un peu de chemin, là. Il y a encore du boulot, mais c'est en bonne voie. Donc, j'ai bon espoir.
Toi, tu te positionnes comment là-dedans par rapport à ton évolution en tant que freelance?
Je me positionne... C'est une bonne question, en fait. Je pense que, quelque part, je me cherche encore. Je pense que déjà, ça évolue hyper vite en fait, quand entre le moment où je me suis lancée et maintenant, il y a plein de choses qui ont émergé. Par exemple, tu vois, le groupe des Content Lovers, à la base, quand je l'ai créé, moi j'avais peur d'être toute seule, tu vois. Je me suis dit, allez, je me lance toute seule en indépendante, il faut que je m'entoure de gens, que je puisse échanger, tout ça. Donc, c'était ça l'objectif. Et après, à terme, je me suis dit, ouais, il y a un vrai potentiel, il y a un truc à faire, il y a d'autres communautés. Donc, c'est peut-être pas hyper pertinent que de faire juste ma petite communauté de mon côté de rédacteurs, content lover, machin. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec, avec d'autres personnes. Donc là, je suis justement en pleine réflexion. Et c'est aussi pour ça que je discute avec toi, tout comme je discute avec d'autres indépendants, pour justement voir où est-ce que je peux amener cette initiative et comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elle, qu'elle devienne plus, enfin, qu'elle prenne plus de sens, plus d'ampleur, comment je peux la connecter avec d'autres initiatives. Je suis en plein dans ces réflexions-là.
Ouais, d'accord.
Et sachant que ce qui est important pour moi aussi, c'est bateau, mais je veux du sens, tu vois, je veux travailler avec certaines valeurs. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté certaines collaborations. Et j'aimerais justement mixer tout ça. Me lever le matin en me disant que je fais quelque chose d'utile, sensé. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais,
non, mais c'est
le cas. Et justement essayer de participer un peu à toute cette dynamique là en faveur de notre bel écosystème d'individus et d'humains heureux. Donc voilà, je suis en plein dans ces réflexions et je fais mon cheminement. Après, je pense que j'ai une année 2017 où s'est passé plein de trucs, même perso et tout, donc il y a plein de... Je suis un peu en processus de déconstruction par rapport à plein de choses. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais je suis en chemin. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout de là où je voulais aller. Donc voilà, je suis sur mon cheminement. Je ne sais pas si j'étais très clair.
Si, c'est clair, ouais, bien sûr. Parce que, ce qui est cool, c'est que toi, par exemple, moi, je vois vraiment le fait que par exemple, tous les designers, tu vois, tous, ils ont besoin de collaborer avec des personnes qui savent écrire. Tu vois. Donc déjà, clairement, en fait, il y aurait des ponts quasiment constants à mettre en place entre les deux communautés pour qu'un mec qui fasse du contenu, il n'ait plus à réfléchir à une mise en forme ou à un design, et qu'une personne qui fasse du design, elle ait tout le temps quelqu'un avec laquelle bosser sur du contenu.
Ouais, quoi, ouais, non,
c'est super important.
Il y a des choses à faire, c'est clair.
Et puis tu vois, rien que moi, tu vois, je l'ai fait. Au final, il y a un gars avec qui je vais bosser, on a détecté qu'il avait besoin d'un contact manager, tu vois. Du coup, moi, je t'ai envoyé un mail à toi, du coup, tu as trouvé un gars, et ben boum, du coup, le gars, il va bosser.
Ils bossent ensemble, c'est cool.
Ben, déjà, on va faire une journée
De sprint,
une journée d'atelier avec lui pour voir comment ça se passe, si jamais ça match entre Maxime et lui et tout.
Parce que c'est aussi trouver les identités qui fit les unes avec les autres. Ça...
Ouais, c'est ça, ouais. C'est le plus important. Et puis lui, en plus, c'est ça qui est génial avec cette diversité, cet entremêlement. C'est que là, lui, il voulait faire son devis par rapport à ce qu'il allait faire. Sauf qu'il allait se retrouver dans un process classique parce que Maxime, c'est pas exactement non plus tu vois, ce qu'il veut parfaitement faire. Donc lui, il allait devoir faire un devis, mais un peu fake parce que forcément, tu dois deviner un peu ce que la quantité de travail, tout ça. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, en fait, non, prends-toi pas la tête. On verra comment il réagit. Je sais pas encore s'il a regardé le mail ou pas, mais prends-toi pas la tête. On va faire une journée d'atelier. La journée d'atelier, elle est dédiée à ça, en fait. On va passer toute la matinée à poser plein de questions à Maxime et son équipe, savoir ce qu'ils veulent vraiment mettre sur leur site, quelle est leur vision, quel est le ton de voix qu'ils veulent mettre dans leurs propos, tous ces trucs-là. Toi, ça va faire toutes tes informations, en fait, pour cadrer un peu le truc. Ensuite, l'après-midi, on va réfléchir à toute l'architecture qu'on va pouvoir construire sur le site, comment est-ce qu'on présente les priorités, les choses à mettre en avant ou pas. Eux, la dynamique qu'ils auront par rapport à l'animation de leur contenu, s'il faut réfléchir à un blog, un truc comme ça, tu vois. Et toutes ces informations-là, c'est exactement ce que tu auras besoin pour toi faire ton devis ensuite pour le reste de ton travail. Donc, le seul premier devis que tu as à faire, à la limite, c'est le temps que tu vas passer. C'est ce que tu es censé prévoir normalement pour préparer un projet, tu vois. Genre une journée de préparation de projet et où aussi tu vas donner ta diversité dans la réflexion. Donc du coup, tu factures ça, tu vois. Et quand tu as facturé ça, après, tu n'as plus à facturer de préparation de projet. Tu auras juste à facturer le travail que tu vas faire parce que tu auras tout ton cahier des charges que tu auras co-construit avec la personne. Tu vois. Et ça, si jamais il n'y avait pas ce fonctionnement d'écosystème, tu vois, ben, peut-être que lui, il n'aurait jamais pu venir là. Peut-être que moi, j'aurais galéré une semaine à aller sur Malte ou je ne sais quoi pour arriver à trouver un mec en content management à qui je puisse potentiellement faire confiance ou quoi. Ça, c'est toujours pareil aussi. C'est que, en général, les personnes qui sont les connecteurs de communauté, s'il faut l'idée qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils se fassent confiance. Qu'ils fassent confiance en la lecture qu'ils ont des autres personnes et en la vision qu'ils ont de ce qu'est qu'un travail de qualité. Parce qu'au final, tout le monde a à peu près une notion de ce qu'est un travail de qualité. On le voit tellement de partout ce que c'est que la qualité, que du coup, on a un peu une notion de ça. Il faut juste qu'on fasse confiance sur le fait que la personne sait lire la qualité. Et dès ce moment-là, en fait, si on fait confiance à la personne et à sa lecture dans la qualité, on peut lui demander n'importe quelle personne. Par exemple, moi, toi, Grégory, tu l'as recommandé, je ne le remets même pas en question, tu vois. Parce que je te fais confiance à toi, Maxime me fait confiance à moi. Du coup, quand Maxime, je lui dis, ben tiens, il y a Grégory, Maxime fait confiance à Grégory, tu vois, c'est réglé. Pourtant, on est passé par trois intermédiaires.
Ouais, c'est marrant.
Et je pense qu'il pourrait y avoir 10 intermédiaires ça marche.
Ça reviendrait au même.
Et l'être humain a toujours fonctionné comme ça, au final, c'est genre...
Vous la faites quand, votre journée, du coup, sprint?
On devrait la faire le 23, normalement, un truc comme ça.
23 février?
Ouais, ça, je pense que c'est ça.
Ok. Et du coup, t'as réuni qui autour de la table?
Bah là, pour le moment, du coup, il y a donc Grégory pour le parti content management. Moi, j'apporterai le regard designer et je serai facilitateur sur les échanges et sur le groupe. Mm. Il y a Maxime qui est le porteur de projet. Il va y avoir deux ou trois personnes de son studio qui seront là, qui auront la vision aussi des gens en interne et en même temps une vision développeur. Mm-hmm. Et après, il faudrait qu'on trouve encore deux ou trois autres personnes.
Avec quel type de profil?
Qui sont sur des profils complètement différents. Genre par exemple, quelqu'un qui s'y connaît pas du tout dans tout ce qui est web, mm-hmm, ou au développement web. Ça, lui, il aura un regard complètement neutre sur la manière dont l'agence aura de communiquer. Mm. On pourra poser plein de questions assez neutres. Après, je sais pas encore, faut qu'on réfléchisse.
D'accord.
Mais des personnes, ouais, qui n'ont rien à voir avec les profils qui sont déjà là. Parce qu'il faut qu'on ait un spectre très large sur le sujet. Donc, potentiellement, je pourrais demander à des personnes qui m'ont déjà demandé de participer à des sprints. Tu vois, je peux leur dire, bah voilà, tu veux faire une journée de découverte, bah, du coup, tu viens avec
moi. Ça dure toute une journée, c'est ça?
Ouais, ça dure toute une journée, ouais. Ouais. Après, il y a possibilité de venir une demi-journée aussi, si tu as besoin.
Je suis pas sûre d'être dispo, mais ça m'intéresserait bien de venir.
Bah ouais, tu me diras. Ouais.
Au moins, ne serait-ce qu'une demi-journée pour voir un peu. Enfin, c'est un peu le même principe que ce qu'on avait fait chez Hugo pour le projet.
Ça se rapproche de ce qu'on a fait chez Hugo. Ouais. C'est un peu la même logique.
Parce que moi, j'étais pas sûre de pouvoir. Parce que moi, j'ai plein de taf, de pouvoir assurer le truc derrière, mais. Rien que de voir un peu le. Voilà, éventuellement apporter des idées si jamais.
Ouais, clairement, bien sûr. Ouais.
C'est, je veux bien que tu me mettes dans la boucle, du coup j'essaierai de suivre.
Ça marche, je te rajoute dans la boucle.
Comme ça, si je peux venir une petite demi-journée, je le ferai.
Donc ouais, voilà, c'est un peu le tous les trucs du moment, quoi.
Yes. C'est cool. Et du coup, toi ça va, tu t'épanouis
Ouais, ça va, ouais. Bah, après, je suis un peu à force de justement rencontrer plein de monde. Des fois, j'ai des semaines où je rencontre 10 personnes que je connais pas. Donc, du coup, c'est un peu fatigant.
Tu m'étonnes.
Redécouvrir des personnes à chaque fois, c'est assez énergivore. Et puis pareil, pour le moment, c'est pas. J'ai envie de mettre mon énergie surtout là-dessus, quoi, en fait. Sur toute cette construction d'écosystème, sur tout ce partage de connaissances, de documentation.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, ton job, toi, à la base, t'es designer, c'est ça?
Moi, là-bas, je suis designer et surtout, là, j'étais facilitateur, donc je bosse avec des entreprises pour les faire travailler ensemble. Okay. Comme pour le sprint, là, tu vois, je fonctionne comme ça.
Donc là, aujourd'hui, ouais, t'es quasiment full facilitateur?
Ouais, je suis quasiment full facilitateur. Okay. Je fais très peu de conception, au final, sauf quand je fais des prototypes d'applications ou de... ou quand je fais des formations aussi, parce que je suis expert sur Sketch, donc du coup je fais pas mal de formations aussi.
Okay.
Et sur la conception, plus de prototypes ou de systèmes en termes de design et d'application. Quoi. Mm. Mais au final, la logique est la même derrière. Quand tu construis une application, c'est comme quand tu construis un projet, quand tu définis des priorités pour un projet, c'est comme quand tu définis des priorités pour une interface. C'est toujours une notion de systémique qui est derrière, même une pensée qui est en système. Mm. Et c'est là-dessus, en fait, ouais, où j'ai envie de mettre mon énergie, c'est d'arriver à apporter cette conscience sur la pensée en système et sur le fait que tout est lié, que ce soit aux entreprises ou que ce soit aux indépendants, parce qu'au final, dans les deux cas, il y a besoin de ça. Parce que les entreprises, elles te demandent tout le temps. Moi, les problématiques que j'ai avec des sprints, c'est que souvent, le challenge qui est en entrée, la problématique, mm-hmm, c'est pas le vrai problème. C'est un effet à quelque chose, quoi. C'est comme quand quelqu'un vient me dire, putain, j'ai mal à la tête 3 jours par semaine, du coup il me faut des cachets, du coup je lui donne des cachets. Du coup, quand il prend les cachets, il a pas mal à la tête. Puis après, au bout d'un moment, il s'habitue, puis il continue à avoir mal à la tête. Puis après, tu te rends compte qu'en fait, 3 soirs par semaine, il se met des grandes fuites, tu vois. Mm. Donc du coup, tu remontes son truc, tu dis, bon, c'est peut-être parce que tu bois trop d'alcool et que c'est ça qui te fait mal au crâne et que du coup, tu devrais arrêter de boire l'alcool. Ah ouais, ben du coup, j'ai plus besoin de cachets. Mm. Mais toi, une entreprise, c'est pareil, en fait. Elle se dit qu'elle va fonctionner comme avec les médecins généralistes, alors que peut-être qu'il y aurait plus besoin d'un fonctionnement plus comme les naturopathes. Ou tu vas leur dire, j'ai tel problème, ils vont te dire, ouais, d'accord, mais du coup, ta vie autour, c'est comment, ça se passe comment, tu vois, ils analysent le système de la personne. Ah, ben peut-être que c'est ton lit qui va pas, donc du coup, tu dois peut-être changer ton matelas. Ah, ben voilà, et du coup, c'est réglé.
Ouais, c'est une approche intéressante.
C'est remonter à la cause, quoi.
Ouais,
et
ouais.
Pour les écosystèmes de freelance, c'est pareil, c'est remonter à la cause, quoi. Même pour les trucs comme, même la posture en tant que freelance, de se dire, pourquoi j'ai pas de job, par exemple, tu vois. Un peu ce que mettent Soto dans leur formation, quoi, tu vois. Mm. Pourquoi j'ai pas de job? Peut-être parce que je suis pas suffisamment intégré dans un écosystème. Et pourquoi je ne suis pas suffisamment intégré dans l'écosystème ? C'est peut-être parce que je suis plutôt introverti, donc du coup, peut-être que je ne devrais pas me forcer à faire du networking et des cartes de visite, peut-être que je devrais faire autrement, tu vois. Mm. C'est un peu, tu vois, c'est toujours un
et
peu.
Et c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, je suis une introvertie, mais genre de ouf, quoi. Et malgré tout, tu vois, j'arrive quand même à avoir du ouais. taf. Et justement, je pense que j'ai trouvé en fait ce qu'il me fallait. Et du coup, je suis super contente parce que moi, c'était aussi une de mes craintes, tu vois. Moi, je me dis, voilà, comment je vais faire, tu vois. Moi, je suis pas.
Et du coup, t'as construit quoi comme système qui te va en tant qu'introverti ? Ça m'intéresse parce que vu que je suis le profil inverse.
Ouais. Ben, clairement, je fais du content marketing. En fait, c'est con, mais le fait de poster des contenus pertinents sur Twitter, sur LinkedIn, de proposer du contenu avec le groupe des content lovers, de proposer de la veille, de proposer des apéros et de faire intervenir des gens, tu vois. Moi, je suis vraiment la nana qui j'organise le truc, mais je suis derrière parce que c'est pas mon truc de mettre en avant. Je fais intervenir des experts sur une thématique qu'on aura définie ensemble. Et en fait, tout ça, ça... les gens ils disent que oui, donc elle a l'air d'être experte dans ce qu'elle fait, elle organise des trucs, peut-être nana, et puis du coup naturellement ils viennent à moi. Et puis il y a aussi les recommandations qui jouent. Et c'est pour ça que c'est important aussi quand tu es freelancer, tu as toute la partie businessman, faut être un bon businessman ou businesswoman. Faut être pas trop mal aussi dans ton job parce que c'est vrai que ça aide d'avoir des recos de clients qui ont été satisfaits. Et au final, c'est le bouche à oreille, les réseaux sociaux et le contenu délivré quoi. En fait, je donne, tu vois. Enfin,
ouais, tu taffes quoi.
Ouais.
Tu travailles.
Et tu vois, tout ce que je fais autour de l'apéro content, je le fais bénévolement et ça me fait plaisir en fait. Et même quand je vois que, qu'une personne a trouvé un job en passant par le groupe ou elle a trouvé une réponse à sa question, quand je vois les échanges entre les gens, je suis trop contente quoi. Je me dis j'ai fait un truc et au final, moi là-bas, je suis pas trop dans les trucs karma, spirituel et tout. Mais je me dis un peu si quand même, parce qu'au final, ça me retombe dessus. Et ouais, c'est hyper sain, c'est un cercle hyper vertueux et ça me fait plaisir. Je lisais récemment un article de Jess, c'était sur les introvertis justement, où elle expliquait comment être un entrepreneur introverti. Et c'est ça, c'est le fait de donner en fait, ça aide. En tout cas, moi, c'est ça qui me permet aujourd'hui de...
Ah ouais, clairement, ouais.
Après, tu vois, je fais quelques événements, networking et tout, mais je ne les fais pas tous. Je les cible parce que je pense que ça ne sert à rien de faire tout. Mais ouais, aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment... Et puis, j'essaye aussi d'avoir des vraies relations humaines. Tu vois, en fait, ça ne m'intéresse pas d'aller dans des événements, parler à tout le monde, distribuer des cartes.
Ouais,
oui, puis c'est pas moi, tu vois. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Et je pense que là, j'ai réussi à trouver... ce qui me plaisait. Et c'est aussi pour ça que tu vois la dernière édition de l'Apéro Contents, j'étais un peu deg parce que c'était, enfin au niveau de l'ambiance, c'est pas ce que j'avais voulu créer, tu vois. Et enfin bon, ça arrive, hein, c'est pas grave, il faut que je réussisse à garder.
Ouais, après t'arriveras à le remettre en place.
Ouais, ouais.
C'est toi qui, porte un peu la couleur qu'il y a sur l'événement.
C'est pas facile de porter un truc quand t'es introverti.
Oui, d'accord. Donc, c'est la seule où j'ai plus de facilité parce que du coup,
pour te donner un exemple, donc le dernier, donc en gros, les gens arrivent, ils se posent, je fais une petite intervention de 5 minutes à peu près et après, je laisse la parole à l'intervenant. Mais je suis pas bien pendant 5 minutes parce que c'est vraiment.
T'es pas à l'aise du tout. Ouais.
Autant tu vois en one-to-one, en petit comité, il n'y a pas de souci. Et ça, je l'ai ressenti aussi parce que dans mon dernier post Finvox, j'avais de la formation. Autant quand c'était des ateliers où il fallait montrer, il y avait une, deux, trois personnes max, leur montrer comme on dit des outils et tout, leur faire comprendre peut-être marketing, c'était hyper cool, je prenais vachement de plaisir et j'avais pas du tout de mal, tu vois. Autant quand il s'agissait de donner une formation à plusieurs personnes, d'être en représentation, de prendre la parole en public, mais là c'est pas mon truc quoi en fait.
C'est sûr que ça se travaille ça.
Et je crois que c'est un truc, ouais.
Bah, limite, il faudrait peut-être que tu trouves une personne qui est extravertie. Du coup,
ça l'éclatera peut-être.
De faire une présentation, ouais.
Non, mais ouais. Après, tu vois, je travaille aussi
sur moi. Après, c'est intéressant aussi comme exercice.
C'est intéressant, c'est sûr.
Arriver à te mettre un peu plus. Ça me fait penser à Landy. C'est une petite malgache qui est dans
la. Ah oui, je vois.
Tu vois ? Qui est avec nous pour les Creative Mornings et puis. Elle me fait trop rire parce qu'à la base elle est vraiment très très timide. Je me rappelle de elle quand elle venait au café curiosité du truc de Nextdoor au tout départ là. Mm-hmm. Elle venait parce qu'en fait c'était son exercice de dire je vais peut-être arriver à parler à des gens que je connais pas, tu vois, c'était genre. Et après elle a, ben là, récemment, elle a fait un pitch au designer lyonnais, tu vois, donc devant 40 personnes, pour dire, pour expliquer pourquoi elle avait cette peur de parler en public, tu vois. Donc, en gros, c'était un autre exercice sur le sujet en lui-même. Elle l'a super bien traité, c'était trop cool.
D'accord, ok.
Et dedans, elle expliquait que ben, pour les Creative Mornings, par exemple, une fois, elle a cru qu'il fallait venir à un Creative Mornings, mais c'était un soir, tu vois. Mm-hmm. Du coup, elle n'a pas calculé, elle est venue, en fait, elle s'est retrouvée à la réunion de l'équipe. Et après, elle a osé rien dire. Et c'est à la fin, elle me fait « Ah, mais je savais pas que c'était une réunion d'équipe et tout. » Elle fait « Non, mais si tu veux, si ça t'intéresse, tu peux faire partie de l'équipe et tout. » Du coup, c'est là comme ça qu'elle est rentrée dans l'équipe. Et c'est depuis qu'elle fait les Creative Mornings qu'en fait, elle a… Ben, le fait de devoir aller des fois, ne serait-ce qu'aller voir des boulangers ou quoi que ce soit quand on allait pour trouver des partenaires pour les petits-déj, ou le fait de parler un peu sur les événements, tout comme ça, ça l'a complètement ouverte. Et genre là, c'était mercredi soir pour le off Interaction 18, mm-hmm. elle était là, et du coup, c'était tout en anglais. Et du coup, elle a même pris la parole, tu vois, devant tout le monde, en anglais, alors qu'elle n'avait jamais fait. Donc il y a cette ouverture en fait qui est intéressante.
Mais tu sais, moi aussi, les apéro content, c'est aussi un petit exercice pour moi, hein, parce que d'être l'organisatrice, forcément, tu accueilles les gens, tu leur expliques, tu fais ton pitch et tout, je prends ça comme un exercice aussi.
Et puis dans l'autre sens, quand tu es extraverti, tu vois, c'est dans l'autre sens que l'exercice est intéressant. C'est quand tu as le fait d'avoir mis une équipe qui s'occupe des designers le nez, tu vois, c'est mm-hmm. parce que c'est… Quand tu es extraverti, tu aimes bien le côté un peu spectacle, tu vois. T'animes le truc, tu vois. Donc, trop cool, t'animes le machin. Et après, le fait de mettre d'autres gens qui s'occupent de ça, et toi, du coup, t'es plus rien du tout, c'est un exercice qui est marrant de se dire, bon, bah, ok.
Ça va, tu le dis bien.
Je suis là, je suis shadow, quoi.
Ouais.
Mais non, au final, c'est trop cool parce que tu vois que ben, la manière dont ils le reprennent, ben, ils gardent certains trucs, donc du coup, c'est rigolo, mais en même temps, ils le mettent à leur sauce. Puis là, ils sont en train de prévoir d'autres formats d'apéro. Donc, cette diversité, encore une fois, qui est là, quoi. Et ça te… Après, je suis plus trop extraverti à trop prendre de place parce que justement, avec mon job, mon but du jeu, c'est d'être là quand il faut, mais d'être en retrait aussi quand il faut. Mais au départ, quand j'étais très extraverti, ouais, ça pouvait être chiant. T'étouffes en fait le monde qui est autour de toi.
Tu prends trop de place, faire des exercices
où tu te mets en retrait, ça t'apprend à avoir d'écoute. Parce qu'en fait, tu manques d'écoute. Un introverti, il a énormément d'écoute parce qu'au final, il se met en retrait. Donc, il écoute tout. Un extraverti, il rate plein de choses. Tu rates énormément de trucs trop intéressants, quoi. C'est dommage. Ça m'arrive encore de temps en temps. Mais j'essaie d'éviter.
Non, mais ouais, c'est marrant. Mais ouais, comme quoi les introvertis aussi. Puis on est plus que vous le pensez, on est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'introvertis.
Ouais. Mais d'ailleurs, ceux qui ont le plus. À mon avis, ceux qui vont le plus rejoindre des initiatives comme Soto, Switch Collective ou compagnie, ça va être souvent des introvertis. Ils vont se dire qu'on va peut-être leur donner des outils qui vont leur servir de support, un cadre de confort en fait pour pouvoir s'exprimer, un cadre de confort pour pouvoir rencontrer des gens aussi, toutes ces choses-là quoi.
Ouais.
Et peut-être que dans ton papier, ça serait intéressant ouais, de mettre en avant les différents profils. Pas forcément que profil de freelance, mais les profils humains aussi, tu vois. Mm. De se dire, bon, bah voilà, si jamais t'es quelqu'un qui est extraverti, t'auras pas de mal à aller discuter avec les gens, à les rencontrer, à aller essayer ça. Mais par contre, ça sera peut-être de t'éparpiller qui risque d'être un risque. Ou de peut-être trop aller à trop de trucs, ou parler à trop de gens, et du coup, ben, tu vois, ta manière de gérer les relations va être un peu compliquée. Parce que du coup, quand tu peux partir dans tous les sens, tu pars dans tous les sens.
C'est clair.
Et l'introverti, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être te dire, bon, bah voilà, peut-être qu'un exercice pour toi, ça va être d'arriver à connecter, mais peut-être pas forcément sur du networking, peut-être juste de contacter par mail des gens que tu trouves inspirants ou qui sont un peu des mentors ou des trucs comme ça, et les inviter à boire un café. Et s'ils disent oui, ben c'est trop cool parce que c'est eux qui vont présenter d'autres personnes. En fait, que les rencontres humaines se font tout le temps tant qu'on reste à l'écoute, mais après, la manière de faire est différente. Quoi.
Ouais,
c'est pas parce que tu as raté un événement où il y a 150 personnes que tu as raté des rencontres. Parce que c'est peut-être une rencontre qui va t'envoyer vers 5 rencontres qui sont très pertinentes. Et d'ailleurs, en tant que extraverti, pour le coup, je fonctionne beaucoup plus maintenant sur les relations humaines, mais d'une manière introvertie. Je vais essayer de vraiment faire à chaque fois des rencontres une personne, ou des petits groupes. Mm. Parce qu'au final, je sais que c'est à ce moment-là où tu as plus d'intimité, tu es moins dans le small talk, et du coup, en étant dans la vraie conversation, tu peux arriver à faire en sorte que la personne t'apprécie, qu'elle te dise, bon, bah, tiens, je connais un autre gars qui est super intéressant aussi, va rencontrer. Tu discutes plus par intérêt, tu discutes juste parce que Est-ce que tu partages vraiment des intérêts? Et là, ça t'amène sur des trucs super cool.
Je suis assez d'accord. Enfin, moi, je le fais parce que je peux faire que ça, de toute façon, vu que je suis introverti. Mais ouais, non, c'est cool. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est que depuis récemment que j'accepte cette facette de ma personnalité. Et je pense que c'est important, en fait, de l'accepter, de l'épouser, de pas forcément vouloir changer qui tu es, et justement de trouver les outils qui vont te permettre de dealer avec cette caractéristique-là de toi, et puis de réussir à faire, enfin, atteindre tes objectifs.
Ouais, clairement. Ouais.
Donc ouais, non, c'est cool.
Cool. Quelle heure il est?
Il est 12h17.
On a fait une heure d'enregistrement. C'est pas beau, ça?